Amen. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre nous allons continuer toujours dans le thème que l'Église a choisi. L'Église, depuis le début de cette année, a choisi, et comme on l'a fait l'année dernière, et choisir le thème qui va nous accompagner, nous guider pour comprendre un peu plus que le Saint-Esprit veut de nous. Alors, le thème de cette année, c'est être le sel et la lumière du monde. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas aller loin de ce thème. C'est toujours dans le même thème que j'ai reformulé, le sous-thème que j'ai intitulé Un chrétien, le porteur de solutions dans sa communauté. Amen. Si vous regardez très bien, et ce thème qui est dans Matthieu 5, nous voyons que ce que ça explique, en fait, c'est que Dieu a mis à nous, nous les chrétiens, nous les croyants, il a mis à nous des choses, des dons, les différents dons, mais ces dons, ce n'était pas pour nous, ce n'est pas pour garder pour nous-mêmes, c'était pour aller servir, servir notre entourage, servir nos familles, servir notre communauté, pour que les gens qui vont voir le bien de l'Éternel à travers nous, qu'ils puissent vraiment se convertir et venir à Jésus. C'est ça, en fait, si je peux un peu résumer le thème en général. Alors aujourd'hui, nous allons nous servir des Écritures pour voir maintenant comment les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans l'ancien temps, parce que nous apprenons de leur démarche, nous regardons ce qu'ils ont fait avec Dieu pour que nous aussi nous les pratiquions aujourd'hui. Alors nous allons aujourd'hui voir le serviteur, le prophète Élisée. Je vais demander à Papa Antoine de venir nous lire les écritures qui se trouvent dans 2 rois, pardon, 2 rois 19, 2 rois 2, à partir du verset 19 jusqu'à 22. Et la Bible est ici, désolé. Alors, je préfère que quelqu'un d'autre lise. Oui, tu peux aller, oui. 2 rois 2, 19, 20, 22.
Les habitants de Jéricho disent à Élisée, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. Élisée dit, apportez-moi du sel dans un plat neuf. Ils obéissent. Élisée va à la source et il jette le sel dans l'eau en disant à la part du Seigneur, de la part du Seigneur. J'ai rendu cette eau pure. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront de nouveau pousser. En effet, l'eau devient pure et elle l'est encore aujourd'hui, comme Élisée l'a annoncé.
Amen. Amen. Et quand vous ne dites pas Amen, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris. Amen. Alors, c'est ça, c'est notre passage du jour. Mais autour de ce passage, nous allons encore ajouter d'autres versets pour mieux comprendre ce que voulait dire vraiment ce passage. Alors, nous allons beaucoup parler du prophète Élisée. Et aussi, je vais parler un peu de la ville de Jéricho. Mais avant, malgré le temps qui me fera défaut, si je pourrais dire ainsi, je vais quand même commencer un peu plus loin avant ce passage, parce que c'est un événement qui a eu lieu après un autre événement. Je dirais événement spécial, qui est l'enlèvement du prophète Élie. Nous connaissons le prophète Élie, et d'ailleurs, on ne peut pas parler du prophète Élisée sans toutefois nous rappeler d'Élie. Il y a quelques semaines que je vous ai partagé la vie du prophète Élie. Et je me rappelle, le thème était, et si je ne m'abuse pas, lève-toi et mange. C'était une parole qui avait été adressée à Élie alors qu'il était fatigué. Il était même au point de vouloir mourir parce que suite à ce qu'il est confronté. Alors, dans toutes les générations, surtout dans l'ancien temps, Dieu a utilisé des prophètes. Des prophètes étaient là pour communiquer au peuple la volonté de Dieu, et surtout accompagner les rois qui étaient en place pour qu'ils ne déroutent pas, ou bien pour les avertir à travers quand même selon la volonté de Dieu. Parce que nous voyons beaucoup des rois qui ont quand même mal fait. Et souvent, Dieu les avertissait à travers les prophètes. Et nous connaissons, parmi ces prophètes, Élie, nous connaissons Élisée, il y a pas mal d'autres. Et d'ailleurs, une formation qu'on connaît déjà, et pour Élie, c'est qu'il fait partie de deux personnages bibliques que la Bible nous dit, les deux personnages bibliques qui ont été enlevés de Dieu lui-même, qui ne sont pas passés par la mort. Donc, il y avait Enoch et Enoch, ou bien Enoch et Élie. Ces deux personnages que Dieu a jugé beau de les enlever sans toutefois passer par la mort comme tout le monde. Alors, c'est une figure très importante parmi les prophètes. Alors que son temps arrivait, je dirais, son temps de service arrivait au bout, Dieu avait déjà choisi Élisée pour lui succéder. Pendant qu'il vivait encore, qu'il faisait son ministère, Élisée était comme son serviteur, celui qui l'accompagnait. Mais en même temps, il apprenait de lui. Il voyait comment il marchait avec le Seigneur. Il voyait comment il opérait des miracles à travers, bien sûr, l'ordre du Seigneur. Et c'est comme ça que le jour arriva. Et le Seigneur invita Élie à sa rencontre. Et puis Élie, et bien sûr, comme quelqu'un qui marchait, qui était toujours à l'écoute du Seigneur, il comprend très bien que c'est son jour de partir. C'est comme ça qu'il annonça à Élisée que voilà, Dieu m'appelle. Dieu veut que je le rencontre à Bethel. Pour lui, c'était comme lui dire, bon, tu restes ici. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais la Bible, même si la Bible ne le dit pas, c'est comme ça, c'est comme si aussi tous les prophètes étaient au courant du départ d'Élie. Et c'est pour cela que Élisée, lui refusant de rester, il dit, il le jura au nom de Dieu, qui va pas rester, qui va l'accompagner jusqu'à Bethel, comme c'était leur habitude de marcher ensemble. Et lui demanda quand même de rester, mais en vain. Ben, comme j'imagine que Élie s'est dit que je vais pas payer le ticket pour lui, il n'avait pas besoin de ticket. Il a dit, OK, on y va. Ils sont partis tout ensemble, mais tout au long de l'histoire, vous allez voir que à plusieurs reprises, Élie demanda à Élisée de rester, mais toujours la même réponse qu'il ne peut pas rester. Il va partir jusqu'à l'endroit de rencontre avec le Seigneur. Alors, quand Élie voit qu'il est juste là, il est presque là, il demanda mais avec insistance maintenant à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi afin que tu restes? Et Élisée, il n'a pas demandé quoi que ce soit de matériel. Bon, je doute même qu'Élisée avait beaucoup, beaucoup de choses quand même, parce que c'était les gens qui s'étaient adonnés à Dieu. Ils ne faisaient que le travail, le service. C'est comme ça qu'Élisée, qui avait vu comment Dieu marchait avec Élie, qui avait vu comment Dieu l'a utilisé pour faire des miracles, il lui a demandé J'aimerais que tu me donnes, tu me laisses le double de ton esprit. Amen. Donc, j'ai vu parmi les gens qui ont demandé des choses de valeur dans la Bible, vraiment, je peux aussi inclure ce prophète Élisée, en plus du fameux Salomon, le roi Salomon qu'on connaît, qui a demandé la sagesse. Mais Élie aussi a demandé une très bonne chose. Il a demandé qu'on lui laisse le double de son esprit, parce qu'il se disait que avec cet esprit, je veux vivre. Amen. Avec cet esprit, je veux traverser n'importe quelle difficulté, étant donné qu'il avait vu comment cet esprit avait fait vivre Élie. Alors, c'est comme ça que arrivé au moment où le Saint-Esprit, bien sûr, Dieu l'avait enlevé. Donc, il y a eu comme une scène, parce que Élie lui avait dit, même si tu me demandes quelque chose de difficile quand même, mais je vais le faire tant que tu me verras partir. Si tu ne me vois pas partir, rien ne sont là. Donc, tu n'auras rien. C'est comme ça que Élisée fixa ses yeux jusqu'à ce qu'il voie Élie partir. Et c'est comme ça qu'il a reçu le double de l'esprit qui était qui opérait à Élie. Donc, et puis la Bible nous dit qu'il lui a laissé aussi son manteau. Alors, de retour maintenant, il a vu la scène devant lui qu'il ne comprenait pas, étant donné que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un disparaître comme ça. Ce n'était pas des choses ordinaires. Et puis, pendant qu'il était désemparé, il voyait rien, il ne voyait pas la suite. Bon, il s'est dit, OK, c'est fini, je vais retourner. Alors, Élisée prend le chemin de retour et il arrive au fleuve de Jourdain, là où il devait passer, traverser. Pour lui, c'était difficile, mais c'est là qu'il a commencé maintenant à utiliser ses dons qu'il avait pris d'Élie. Il a utilisé son manteau pour traverser. Et comme je vous ai dit, la scène a eu lieu la journée. Donc, les gens assistaient à cette scène qui est l'arrivement du prophète Élie. Et bon, peut-être beaucoup se demandaient comment allait vivre son serviteur qui était resté seul. Mais quand ils ont vu Élisée utilisa le manteau d'Élie et qu'il a pu traverser, ils ont constaté que maintenant c'est lui le successeur d'Élie. Que la force, que la puissance qui était en Élie maintenant s'est transférée dans son serviteur. C'est comme ça qu'ils ont commencé maintenant à l'obéir comme le prophète, maintenant le prophète de leur époque. Alors, c'était à Jéricho, c'était dans la ville de Jéricho que cette histoire a eu lieu. Quand Élisée arrive, ben, il passa un moment avec les gens. Les gens, bon, bien sûr, c'était reconsolé, mais on a connu tout ce qui était arrivé, vraiment. Mais il y en a même dans la ville qui lui ont proposé une chose. Ils ont dit, quand même, on ne pense pas que ton maître est parti. Peut-être le voir a transporté ailleurs, ils l'ont jeté quelque part. Donc, ils ont dit, OK, laisse-nous. On va choisir 50 hommes parmi nous. On va aller à la recherche de ton maître. Peut-être que c'est après un certain moment, bah, vous savez, le vent déplace des choses et puis ils vont les déposer ailleurs. C'est comme ça qu'ils pensaient. Ils pensaient qu'à un moment donné, le vent a jeté Élie à quelque part. Ben, Élisée, il connaissait, il a dit non, 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 laisse tomber. Mais comme ils ont insisté, ils sont partis. Après plusieurs recherches et tout ça, ils sont revenus, ils n'ont rien vu. Et de retour maintenant, ils rejoignent le prophète Élisée. C'est là où maintenant cette histoire commence, c'est là où les gens commencent à lui raconter ce qui se passe dans leur ville. Étant donné qu'ils avaient vu la puissance qui était maintenant à lui, c'est comme ça que les gens de la ville de Jéricho lui disent, tu vois notre ville, vraiment elle est bien située, c'est une très belle ville. Apparemment, l'apparence est bon, l'emplacement est bon, tout est beau de l'extérieur, mais nous avons un sérieux problème. C'est que le pays, l'eau ici est mauvaise et le pays est stérile. Rien, j'ai aimé la version que notre sœur a utilisée. Il dit, il n'y a aucune plante qui pouvait pousser là-bas. Imaginez-vous, dans la ville comme ça, comme Montréal, il n'y a pas de l'eau. Il y a de l'eau, mais qui sont quand même contaminés, qui est contaminée. Donc, c'est-à-dire, si tu bois, tu tombes malade, tu peux mourir même. Et il n'y a rien qui pousse. Donc, il n'y avait pas vraiment, c'est une vie invivable. Alors, juste quelques minutes, j'ouvre une parenthèse pour la ville de Jéricho. Si vous lisez, surtout dans l'histoire de Josué, vous allez voir que la ville de Jéricho, normalement, c'est une des anciennes villes qui existent encore aujourd'hui. Alors, il a été depuis plusieurs millénaires avant même Jésus-Christ. Et puis, la ville a connu beaucoup de destructions. Donc, il a été, vous vous rappelez l'histoire de murs de Jéricho, comment ça a tombé. Et puis, je vous rappelle juste vite, quand le peuple d'Israël venait d'Égypte, il fallait faire des conquêtes. Des conquêtes des différents territoires. Et parmi ces territoires, il y avait aussi Jéricho, parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à Canaan sans toutefois passer par Jéricho. C'est comme ça que Dieu livra la ville dans les mains des Israélites. C'est là où il y a l'histoire de tourner sept fois, sept jours, et qu'à la fin, le mur s'écroula, et puis les Israélites ont pu entrer dans la ville, là, Dieu leur avait ordonné de tuer tout le monde, même les bêtes, tout ce qui souffre, sauf Rahab. Rahab, c'était une prostituée qui vivait dans la ville de Jéricho. Mais le moment où les espions d'Israël venaient espionner la ville pour voir comment ils allaient attaquer, et la sécurité de Jéricho, ils ont quand même, la ville était sécurisée, mais quand ils ont constaté qu'il y a des espions, ils sont venus à leur poursuite. C'est comme ça qu'ils se sont enfuis dans la maison de Rahab, de cette prostituée qui les a cachés. Et par là, ces espions lui ont promis qu'une fois ils viendront détruire la ville, lui et sa famille, il sera sauvé. C'est comme ça que dans la ville de Jéricho, seulement Rahab et sa famille est sauvée ce jour-là. Donc, je voudrais vous dire que la ville-là avait connu une destruction totale. Et d'ailleurs, Josué avait dit, si quelqu'un osera rebâtir la ville, il va perdre son aîné. Et celui qui va, peut-être qui va continuer. Une fois qu'il va arriver au moment de poser les portes, il va perdre son dernier. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La ville, depuis, il a passé plusieurs années sans qu'il soit reconstruit. Et j'ai ouvert cette parenthèse pour comprendre peut-être des raisons. C'est pas, la Bible n'en dit pas. Mais ça peut aussi être des raisons pour lesquelles vous imaginez la ville où on a tué tout le monde, les vaches, tout mêlé. Et puis là, il s'est passé plusieurs années, rien n'a été fait. Et puis on a habité encore. Quand même, une certaine, je dirais, bon, malédiction, bien sûr, qui avait été prononcée, mais vous comprenez la raison pour laquelle il y avait rien qui poussait, l'eau était sale, ça peut être aussi la raison. Donc, mais la ville quand même a existé, mais comme Josué l'avait dit, le monsieur, si vous lisez dans Josué 6, nous allons, je vais lire parce que j'ai des versets à côté. Achab, sous le roi Achab, Achab fit le plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel. Donc, Achab était un roi qui a beaucoup irrité l'Éternel plus que d'autres rois qui ont régné en Israël. De son temps, hier, Dobéter bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. C'est-à-dire, quand il a mis les fondements sur la ville pour rebâtir, il a perdu son fils qui s'appelait Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on va pas lire, mais donc la malédiction que Josué avait prononcée le jour de la destruction de Jéricho a été accomplie pour la personne qui a quand même osé rebâtir la ville. C'est comme ça que la ville de Jéricho, quand même, Élisée, une fois arrivée, on lui a raconté tout ce qui s'est passé, déjà pleuré, bon. Du fait qu'ils avaient vraiment, ils vivaient la misère. La vie n'était pas bonne, la santé n'était pas, n'y était pas. Rien n'était garanti dans cette ville. C'est ce que je viens de dire, oui. Et bien que la ville était située dans une plaine fertile, très bonne pour l'agriculture, favorable à la culture de fruits, et d'ailleurs, dans la Genèse, on appelle cette ville ville des palmiers ou poussée des palmiers à cause de son climat, connue dans la Bible comme ville de palmiers, Deutéronome, vous pouvez lire ça. Et vie, étant donné que la ville était vue comme une belle ville et un bon endroit pour vivre, mais elle était reconstruite après une ancienne malédiction, c'est ce que j'étais en train de dire. Et dans l'histoire du biblique, la ville avait été détruite lors de la conquête d'Israël sous Josué. Vous pouvez lire ça dans 6, Josué 6, 20 à 21. Et après la destruction, une malédiction avait été prononcée contre cette ville et contre celui qui la construirait dans Josué 6, 26. Vous allez voir ça, c'est ce que je viens de lire. Et plus tard, elle fut reconstruite pendant le règne du roi Ahab, ou bien Achab dans certaines versions. On peut lire ça aussi dans 1 roi 16-34. Et cette reconstruction s'accompagna des tragédies. Vous avez compris qu'il a perdu des enfants comme il avait été prononcé. Alors, la suivante. Alors, quand on a raconté à Élisée toute cette histoire, Élisée n'a pas cherché à analyser le problème comme on peut le faire, demander aux gens, mais qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'il savait qu'il avait une solution pour le problème. N'oubliez pas le thème pour nous, c'est un chrétien, le porteur des solutions dans sa communauté. Alors, Élisée, il a agi par la foi, et il a résolu le problème. L'eau est devenue saine. La terre a été restaurée, la ville a retrouvé la vie et la prospérité. Oui, comme je l'ai écrit, on ne va pas entrer en détail, mais Élisée a fait beaucoup. Si vous lisez à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, à peu près, de deux rois, donc vous allez voir toutes les actions, tous les solutions qu'Élisée a données face au problème que Oroui présente. Donc, il a Parmi ces actions, il a multiplié des repas, c'est-à-dire il a nourri les affamés par la foi, il a guéri un enfant et il a guéri, vous rappelez du fameux Naaman et le lépreux, et puis il a ressuscité un enfant. Donc ça, c'est des choses. Quand il est arrivé, il est arrivé à un endroit où il présentait des problèmes, il apportait des solutions parce qu'il avait à lui le don que Dieu avait mis à lui, bien sûr, pour servir son entourage, son environnement. Alors, je vais beaucoup plus vite, mais j'allais aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi vous servir d'autres exemples comme Joseph. Joseph aussi, qui a été présenté. Dieu révéla au roi Pharaon qu'une grande famine allait frapper le pays à travers des rêves. C'est un résumé que j'ai fait, mais vous vous rappelez, il a eu des rêves qu'il n'a pas compris, qui étaient compliqués pour lui, le roi Pharaon. Et il a invité tous les gens, tous les sages du pays pour qu'on lui explique ses songes. Personne n'a pu les expliquer. Jusqu'à ce que Joseph, qui était emprisonné, il y avait quelqu'un qui a dit au roi que dans la prison, lui était sorti de prison, il vivait avec quelqu'un qui pouvait expliquer, qui avait son don d'expliquer les songes. C'est comme ça qu'on a sorti Joseph pour expliquer au roi les songes. Et par la grâce de Dieu, Joseph arriva à expliquer les songes du roi qui vraiment le traumatisait parce qu'il voyait des choses, il n'arrivait pas à comprendre. Et puis dans son pays, personne ne pouvait les comprendre. Pour lui, il était dans la misère. Et quand Joseph a pu donner la solution, le roi a dit même qu'il ne trouve aucune autre personne qui peut, dans son pays, d'Égypte, qui peut faire ce que Joseph proposait. Parce qu'il avait expliqué que voilà les songes que tu as vus, il y aura les 7 ans de prospérité, mais par la suite, il y aura d'autres 7 ans de famine. Donc, pour cela, il vous faut profiter de la période de prospérité, vous stockez, vous faites des stocks un peu partout dans le pays, comme ça vous allez utiliser ces stocks pendant les 7 ans de famine. C'est comme ça que Joseph est sorti du prison et le roi a ordonné qu'il soit le deuxième, si je pourrais dire ainsi, pour exécuter ces plans, ces plans qui venaient de l'air révélé. Donc, j'ai donné cet exemple pour vous dire à quel point aussi Joseph a apporté la solution, non seulement en Égypte, parce que vous vous rappelez que c'est pendant cette période que les pays voisins venaient, dans la région, ce n'était qu'en Égypte qu'on pouvait trouver quelque chose à manger. C'est comme ça que même sa famille venait de loin, sont venus et chercher la nourriture. C'est comme ça qu'ils se sont encore rencontrés. Donc, pour vous dire à quel point les hommes de Dieu de l'Ancien Temps et même dans le Nouveau Testament ont apporté des solutions dans la société. Alors, pour nous aussi, pour nous les chrétiens d'aujourd'hui, des fois, nous nous posons des questions. Oui, on nous présente des problèmes, mais des fois, le doute s'installe. Oui, je suis petit et je ne suis pas beau, je n'ai pas beaucoup de moyens, je ne peux pas changer, peut-être que ce n'est pas à moi. Mais si vous voyez très bien, ces gens-là que Dieu a utilisés, ils n'avaient pas beaucoup de moyens physiques, seulement la foi. Ils marchaient par la foi et ils savaient que c'est leur temps d'opérer. Alors, j'ai dit à travers, Dieu peut nous utiliser à travers la prière, à travers un conseil, à travers une aide. Donc, on n'aura pas besoin, ce n'est pas des grandes, des petites choses, des grandes choses qu'on aura besoin pour servir dans notre entourage, dans notre société. Et on a eu des témoignages, par exemple, Nicole nous a donné un témoignage, comment il a partagé un témoignage avec quelqu'un. Pour lui, il ne voyait pas l'importance de ce témoignage, mais le témoignage a porté fruit, désolé, a porté fruit à la personne. À travers ce don, vous voyez, vous comprenez qu'on peut aider notre entourage. Vous pouvez prier pour la personne qui est dans le besoin, il est soulagé. Vous pouvez apporter une aide physique aussi. On peut, oui, manifester aussi un acte d'amour. Je vais finir, mais j'ai compris que Dieu veut nous utiliser, bien sûr, pour être la lumière. Il veut nous utiliser dans notre entourage. Parce que sinon, le thème là que nous nous sommes donné, et même la mission que Dieu nous donne d'être la lumière, ça ne va pas se concrétiser. Mais si nous acceptons et que oui, nous acceptons de marcher, d'utiliser les dons que nous avons, d'utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition, Dieu va agir. La société va être transformée à cause de... On va apporter des solutions. On sera des hommes de valeur là où nous sommes, au travail. Peut-être je vais encore faire une autre, la suite de cet enseignement, mais il faut que là où nous sommes, déjà trouver, nous trouver comme des hommes de valeur, des personnes de valeur, parce que nous avons Jésus à nous. Et ce n'est pas normal qu'un chrétien, au lieu de travail, déjà refuse peut-être de t'approcher, de travailler avec toi parce qu'il sait que bon, ça ne va pas bien marcher. Un chrétien porteur des solutions, déjà au contraire, aurait envie de venir, de t'approcher. Et s'il y a des problèmes, déjà aurait envie d'aller chercher terre. Je vous donne un petit pour terminer. Quand je préparais cet enseignement, je me suis rappelé. Je donne beaucoup, souvent, des petits exemples qui m'arrivent au travail. Et quand je préparais ça, j'ai dit, ah, Dieu peut nous utiliser. Des fois, pour que nous puissions le glorifier, il y a comme 3 mois, j'étais à mon étage là où je travaille. Et puis, c'était le soir, samedi. Et vers 8 h, je vois l'assistant. L'assistant, c'est des fois... Dans la période de week-end, c'est lui qui supervise le centre parce que l'administration, bon, et il ne travaille pas les week-ends. Pour vous dire que c'est lui quand même qui est overlord, qui dirige tout. Je le vois, il vient, il dit à Herman, mon ami, il a dit, mon ami, ah, j'ai besoin de toi, on a un défi au premier étage. Et c'est mon cœur a battu un peu, j'ai dit, mais je ne suis pas, je sais pas quel problème qui fait monter l'assistant pour venir me chercher. Il me dit, ah, on m'a appelé, mais moi aussi, je n'ai pas pu. J'ai dit, c'est quoi? Mais vraiment, je vous dis, parce que c'est quelqu'un normalement qui me considère, je sais, mais je me disais, mais Dieu, tu veux, si je n'arrive pas à trouver la réponse à ce qu'il me demande, donc je serais un peu, c'est comme si je vais perdre l'avance. C'est mon cœur. C'est ça que mon cœur me disait. J'étais vraiment, il me dit, OK. Les préposés, pendant qu'ils voulaient coucher un résident, ils ont monté le lit à un certain niveau pour travailler, mais ils n'ont pas pu le descendre. Je voulais vous dire combien Dieu peut nous utiliser aussi pour des petites choses, mais sa gloire, quand même, est là-dedans. Du coup, je ne pouvais pas, mais parce que je ne suis pas quand même technicien. Mais il a dit, le lit est arrivé à un certain niveau qu'il souhaitait. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, mais comme ils doivent redescendre le lit pour que le patient ne puisse pas chuter, ils n'ont pas pu. Ils ont appelé l'infirmière qui est sur l'étage, il n'a pas pu. Ils m'ont appelé aussi, on a essayé, mais j'ai dit, il m'a dit, j'ai parce que, bon, qu'est-ce que tu peux refaire? J'ai dit non, bon, j'ai pas dit non, mais quand même pour moi, c'était la bonne réponse. J'allais dire non. Parce que je me disais, il m'avait raconté, il m'avait dit déjà qui était sur place, que je jugeais le plus ancien. Et puis j'ai dit, mais ce que je pensais en tête, je disais, ce n'est pas la bonne solution. Parce que si c'était la bonne solution, les autres aussi le savent. Parce que je voyais. Au fait, j'ai dit, OK, bon, je ne sais pas quand même, mais peut-être si vous allez vous retourner, c'est ça que j'ai dit. Vous remontez le riz au maximum, vous allez le descendre, ça va aller. Bête comme ça. J'ai dit parce que je ne voulais pas dire non, mais pour moi, c'était une façon de lui donner quand même une réponse et partir. Et puis le filmier qui était à l'étage, j'ai dit, ah oui, on va aller voir si ça va marcher. Ils sont descendus 2 minutes après, mais je dis, OK, il battait, je disais, mais je n'ai pas le choix, je ne suis pas. 2 minutes après, j'ai vu l'ascenseur s'ouvrir encore. Ah, ils étaient, ah, on est, tu nous sauves vraiment, merci beaucoup. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, tu me sauves. Tu me sauves. Cette fois, je me sentais un peu vraiment décrédibilisé, mais merci beaucoup. Alors, pour eux, j'ai été, parce qu'il faut comprendre que le temps d'aller peut-être le week-end après le technicien de l'extérieur, ou bien aller chercher les riz dans les stocks, ça allait beaucoup quand même perturber. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était pour eux quelque chose, et je le comprends, qui allait prendre beaucoup, qui allait leur causer beaucoup de stress. Alors, j'ai dit, OK, quand je préparais ça, j'ai dit, oui, le Seigneur peut nous utiliser. Vous allez voir même les prophètes, une fois des choses se perdaient et puis les gens venaient, ah, on a perdu quelque chose, on n'a pas pu. Et le prophète, il donnait la solution. Aussi des petites choses comme ça. Mais pour qu'on soit, même dans des petites choses, peut-être qu'on néglige, qu'on soit des réponses. Je pense que même si je ne suis pas capable, mais une fois qu'il aura un autre problème, il va venir parce qu'il pense que j'ai des solutions. Mais je prie le Seigneur que oui, il me donne quand même comme il l'a fait. Amen. Alors, on peut être des porteurs de solutions dans nos milieux, dans les écoles, partout. Parce que c'est ça, nous sommes là pour ça. Et c'est là que la parole d'être seul et lumière dans la communauté va se concrétiser. Alors, j'ai été plus long, mais que Dieu vous bénisse. Et je m'excuse pour le temps, pour les gens qui sont sur Zoom. On a dépassé quand même quelques 20 minutes, mais que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur pour la journée. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Je sais qu'il n'y a rien qui nous arrive sans que tu n'aies un plan pour sauver quelqu'un. Nous venons d'écouter le message, Seigneur, que tu m'avais mis à cœur. Je prie que ce message puisse grandir dans le cœur déjà qui l'ont écouté. Parce que le Saint-Esprit est notre grand enseignant. Seigneur Jésus, je prie que le Saint-Esprit continue à grandir ce message beaucoup plus dans le cœur déjà. Que le Saint-Esprit nous accompagne pour pouvoir donner des solutions dans ce monde où tu nous places. Parce que c'est là que le message, ta mission pour nous, la mission pour nous va se concrétiser. La mission d'amener beaucoup plus des âmes vers toi, Seigneur. Merci que le Saint-Esprit nous a été donné et nous donne des dons pour pouvoir aider dans la société. Merci, Seigneur, pour la journée. Et je prie, Seigneur, que tu nous accompagnes pour le reste de la journée et aussi pour la semaine qui s'en vient. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans des difficultés. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous accompagne dans nos lieux de travail afin que nous puissions continuer à briller, à illuminer, Seigneur, et que le monde voie en nous quelque chose de plus. Nous t'avons prié ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.